Il y a 25 ans, la bataille d'Orgreave, un tournant dans la grève des mineurs britanniques. Le 18 juin 1984 se joua le dernier acte d'un face-à-face entre les mineurs britanniques et la police. Cette bataille d'Orgreave marqua l'apogée de l'année de grève que firent la grande majorité des 180 000 mineurs contre les 100 000 suppressions d'emplois annoncées le 6 mars de la même année par le gouvernement de Margaret Thatcher. Un affrontement sans enjeu pour les mineurs. Orgreave était une coquerie du nord-est du pays, ravitaillant la scierie géante de Scunthorpe. Elle était l'une des cibles du NUM, le syndicat des mineurs, dans le but de, citation, paralyser tout mouvement de charbon, fin de citation. Mais alors que jusque-là, Thatcher avait évité tout affrontement avec les piquets de grève volants des mineurs, elle choisit Orgreave pour tenter de leur infliger un premier revers. Le leader du NUM, Arthur Scargill, avait pour sa part donné l'objectif de réitérer à Orgreave ce qui avait réussi lors de la grève de 72, lorsque les mineurs avaient fait reculer la police avant de remporter la victoire. Seulement en 72, à Salt Lake, l'épreuve de force avait suscité un mouvement de grève sauvage autour du dépôt, dans le bassin métallurgique de Birmingham. Des milliers de métallos s'étaient joints aux mineurs face à la police. À Orgreave, perdu dans la campagne, loin de toute concentration industrielle, rien de tel ne pouvait arriver, d'autant moins que rien n'avait été organisé par le NUM pour tenter de convaincre d'autres travailleurs de se joindre aux mineurs. En fait, 5 à 6 000 piquets volants, entre guillemets, de mineurs, firent face seuls à une force de police au moins équivalente, équipée et préparée pour le combat. Et ce fut finalement la police qui fit reculer les mineurs après de violents affrontements qui firent plus d'une centaine de blessés dans leur rang. Ce revers marqua la fin de la période ascendante de la grève, où la combativité des piquets volants des mineurs s'était fait sentir partout dans le pays. Mais surtout, Orgreave souligna les limites du corporatisme du NUM. Pour combatif qu'ait été le langage d'Arthur Scargill, son choix de cantonner la grève à défendre les charbonnages, entre guillemets, voire le charbon britannique, entre guillemets, privait les mineurs de toute perspective face à l'offensive de la bourgeoisie. Car si Thatcher avait choisi de s'en prendre aux mineurs, son objectif allait bien au-delà. Depuis son arrivée au pouvoir, après la grande vague de grève de l'hiver du mécontentement, entre guillemets, de 78-79, elle cherchait à réduire la résistance de la classe ouvrière, avec des lois contre le droit de grève et des mesures faisant porter sur celle-ci le poids de la récession qui sévissait alors. En 1984, pourtant, Thatcher et le patronat étaient encore loin d'avoir emporté la partie. Ils n'avaient encore jamais osé utiliser sa législation anti-grève et avaient dû reculer face à plusieurs mobilisations ouvrières, y compris face aux mineurs en 1981. Mais le fait que la bourgeoisie était engagée dans une offensive générale ne pouvait faire aucun doute, comme le montrait un éditorial de l'hebdomadaire d'affaires The Economist, affirmant que pour rétablir la compétitivité britannique, entre guillemets, la masse salariale devait être réduite de 20% à production égale. C'est donc dans le contexte de cette offensive, aggravée par le chômage, 3 millions de chômeurs au début 84, et face à un pouvoir sorti renforcé des urnes, grâce à la guerre des Malouines, que la grève éclata dans les mines, avec un dynamisme qui surprit autant le gouvernement que les dirigeants syndicaux. Pour Thatcher, c'était un bras de fer qu'elle devait gagner, un bras de fer qui, du coup, concernait l'ensemble des travailleurs. Dans cette situation, les dirigeants des mineurs auraient pu s'appuyer sur la détermination, le crédit et le nombre des mineurs pour tenter d'entraîner ne serait-ce que les secteurs de la classe ouvrière menacés par des attaques similaires, et ils ne manquaient pas. Mais pour cela, face à la caution donnée par les leaders de nombreux syndicats aux exigences des employeurs, il aurait fallu s'adresser aux travailleurs du rang de ces syndicats, en passant par-dessus la tête de leurs leaders pour les entraîner dans la lutte sur la base de revendications communes destinées à assurer un salaire décent à tous, pris sur les profits d'une bourgeoisie britannique qui en avait largement les moyens. L'impasse corporatiste. Mais Scargill et les leaders du NUM étaient des hommes d'appareil, aussi soucieux de garder le contrôle de leurs précarés corporatistes que respectueux des prérogatives des autres appareils syndicaux. tout en tempêtant publiquement contre le refus des leaders du congrès des syndicats TUC d'appeler à des actions de solidarité avec les mineurs, Scargi refusa toujours de marcher sur leur plate-bande. Et lorsque des militants du NUM prirent de telles initiatives, comme ce fut le cas au Pays de Galles par exemple, Scargi fit ce qu'il fallait pour torpiller ces tentatives. Après Orgreave, les mineurs furent les premiers à faire les frais de ce corporatisme étroit, avec 9 mois d'une lutte de plus en plus isolée, employés à bloquer le passage à quelques milliers de jaunes, entre guillemets, à qui les charbonnages tentaient vainement de faire redémarrer, entre guillemets, les mines, ce qui suscita de profondes rancœurs parmi les mineurs. La lutte se termina en défaite en mars 85. Mais au-delà des mineurs, ce fut toute la classe ouvrière qui paya chèrement cette politique, par la démoralisation et la conviction enracinée pour longtemps que, là où les mineurs avaient échoué, personne ne pouvait réussir. Aujourd'hui, alors que la bourgeoisie est de nouveau à l'offensive, au vu et au su de tous, les travailleurs auraient bien besoin de se souvenir de l'expérience si chèrement acquise par les grévistes de 84-85 pour préparer une réponse adaptée à cette offensive. Si tel était le cas, quoi qu'en disent les politiciens, la lutte des mineurs n'aurait finalement pas été vaine. François Rouleau.